Moi, je prends le nom du Maïs Kater Oriental. J'ai réfléchi totalement à cette
histoire. Moi, c'est une de vos compagnies au Pastanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, à l'équipe de l'écriture, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous écouter. Le gouvernement congolais a finalement cédé le vendredi dernier au plaidoyer des opérateurs pétroliers qui réclamaient la révision à la hausse du prix de carburant à la pompe. Un litre d'essence est passé à 1475 francs congolais contre 1400 francs congolais auparavant, soit une augmentation de près de 75%. 75 francs congolais. Selon certains observateurs, les gouvernements congolais seraient dans cette affaire face au défi des effets d'entraînement, à savoir la spéculation et autres augmentations des prix des produits de première nécessité. Nous en parlons avec vous et nous allons échanger tout au long de ces 57 minutes interactives avec comme question principale, quel regard portez-vous sur cette affaire? Contactez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Piero et la Mégia assurent la réalisation de cette émission, il est assisté par Elvira Pantou. Mimi Kindou assure plutôt la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous commençons d'abord par vous dire merci du fait que vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages sur nos différents réseaux sociaux. On va les lire dans quelques instants, mais il est temps pour nous de recevoir dans ce studio Monsieur Michel Somoy, qui est analyste économique. Il est avec nous. C'est un grand plaisir de le recevoir, en tout cas dans ce studio, et surtout un grand plaisir parce qu'il a pu faire le déplacement de ce grand studio Jérôme Gogo. Merci beaucoup. Alors Michel Somoy, bonjour.
Bonjour, Julien.
Alors d'entrée des jeux, quel regard économique portez-vous sur cette affaire?
Sur l'affaire de l'augmentation des prix de produits pétroliers au Congo, pour des raisons qui ont été évoquées officiellement par le gouvernement, mon regard est que l'économie congolaise souffre abondamment de cette extraversion pathologique qui la rend excessivement vulnérable au moindre choc extérieur. Ça veut dire que notre fameux cadre macroéconomique est excessivement fragile. Parce que si à chaque mouvement d'une économie internationale, nous devons automatiquement subir les effets chez nous sans qu'il y ait la moindre possibilité de les amortir et peut-être même de les éviter, tout simplement. Cela signifie que nous avons le flanc totalement prêté aux tergiversations, aux vicissitudes, aux péripéties de l'économie internationale. C'est la principale leçon que je tire de là. Le deuxième aspect de mon intervention, en rapport avec cette variation des prix des produits pétroliers, c'est que le mécanisme de formation des prix chez nous appelle beaucoup de critiques. Vous savez que j'ai souvent dit qu'on ne peut pas parler de l'inflation, de l'indice des prix tel qu'on en parle chez nous, avec une monnaie qui ne remplit pas la fonction d'étalon des valeurs, la fonction de numéraire. Parce que parler de l'indice des prix, parler de l'inflation à 0,1% ou à 1%, à 5%, à 9000%, etc., suppose que la devise que vous utilisez, je veux dire, l'unité monétaire que vous utilisez pour faire vos calculs, joue effectivement la fonction d'étalon des valeurs, c'est la fonction de numéraire au sein de votre économie. Or, nous savons tous que, en ce qui concerne le marché congolais, les prix sont fixés en dollars américains, et puis on les convertit en francs congolais. Le numéraire, c'est le dollar américain. La preuve est là.
Alors, l'économie est dollarisée. C'est ça le terme que vous utilisez.
Et on le dit officiellement. Et on a même peur de combattre la dollarisation, de façon franche. Le fait est là, quand les prix pétroliers à l'extérieur, quand les prix bougent à l'extérieur du pays, ici chez nous, ou même quand il y a une simple conséquence sur la production, une simple production qui baisse à l'extérieur et qui appelle une sorte de rationnement dans l'approvisionnement du marché, automatiquement chez nous, les prix montent. Ça n'a rien à voir avec un élément de l'économie interne.
Mmh.
C'est-à-dire que le dollar, la monnaie que nous utilisons, est un véhicule de toutes les vicissitudes des économies étrangères.
Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la gestion des stocks de pétrole que nous avons?
Le problème ne se définit pas en termes de gestion des stocks. Parce que quel que soit le stock que nous avons aujourd'hui, si les prix du pétrole augmentent sur le marché international, ça va se répercuter au Congo. Quand je parlais des mécanismes d'amortissement des chocs extérieurs, cela supposerait, par exemple, que nous disposions d'un stock stratégique tel que nous puissions être en mesure d'empêcher que les prix augmentent automatiquement lorsqu'il en est ainsi à l'extérieur.
Mais les opérateurs pétroliers n'ont pas fait pression que la dernière semaine. Il y avait déjà une tension très latente. Je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'on puisse juste attendre, comme l'évoque le ministre de l'économie, qu'il s'agit là au fait de la fermeture, de l'impact relative à la fermeture des grandes raffineries internationales. Mais pourtant, les problèmes, au fait, la réclamation des opérateurs pétroliers ne date pas d'aujourd'hui. Si nous pouvons remonter, c'est à peine il y a 2, 3, 4 mois, on sentait déjà que dans les secteurs, ces opérateurs réclamaient qu'il y ait révision à la hausse.
Oui, c'est exact. Mais encore une fois, faut-il dire que la vérité de notre économie, elle est fragile. Lorsque on parle de la stabilité des prix, il s'agit en réalité de prix artificiels, qui ne sont pas le reflet de la rencontre entre l'offre et la demande. La pression des pétroliers signifie simplement que les prix qui leur étaient imposés par l'État à pratiquer à la pompe,
qui devaient être subventionnés,
oui, ne sont pas des prix qui reflètent la réalité du marché pétrolier. C'est ce que cela veut dire. Mais pour des contraintes qui ne sont pas liées au bon fonctionnement de l'économie nationale, mais simplement dans le désir de présenter pour la consommation extérieure un beau tableau statistique, l'État accepte de s'assumer dans des fonctions qui ne sont pas les siennes et qui prennent le risque de le dénaturer. Parce que ça pose quelque part finalement le problème du rôle de l'État dans l'économie.
Mmh.
Lorsque l'État devient maintenant, vient faire écran au fonctionnement de l'économie, tel que cela est établi par les conditions du lieu, alors l'État est en train de faire écran à la vérité, et donc faire écran à l'économie.
C'est pourquoi nous avons proposé, d'ailleurs, la semaine prochaine, on reviendra sur un débat autour de la vérité des prix. On est sans ignorer que dans un passé récent, le gouvernement avait initié une enquête MENA Finance, si ma mémoire est très 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 bonne, où on a dû démontrer noir sur blanc la vérité, comment les opérateurs économiques spéculaient avec le prix. Donc on reviendra peut-être la semaine prochaine avec de responsables du ministère de l'économie pour voir où en est-on avec ces rapports. Est-ce que ça reflète réellement la réalité par rapport à cette situation?
Si vous permettez, Gérard, je vous dirais que le problème est même plus grave que c'est celui de la simple vérité des prix. Le problème se pose même en termes de la nature des prix que nous pratiquons chez nous. Est-ce que les prix sont-ils la sanction normale? Sont-ils la mesure exacte? Sont-ils le point de compatibilité entre l'offre et la demande, c'est-à-dire le point d'expression de l'équilibre du marché, ou bien est-ce que les prix sont un simple instrument de solidarité, peut-être, ou de faiblesse de l'État, ou d'allégeance de l'État à certaines pressions intérieures? Parce que lorsque nous analysons l'économie, nous ne devons pas oublier que le père fondateur de l'économie qui nous régit aujourd'hui dont nous parlons s'appelle Adam Smith. Avant d'écrire son livre sur la richesse des nations, dans lequel il insiste sur le rôle du marché, particulièrement le rôle de la main invisible, qui conduit inévitablement par le mécanisme des prix toute économie à l'équilibre. Mais le même père avait commencé par écrire un autre livre, c'est un philosophe,
tout à fait,
sur la théorie des sentiments moraux, où il disait que ce qui était le fondement du lien social, donc le fondement du marché et de l'économie, c'était la solidarité, c'était la sympathie, c'était l'amitié. Voilà pourquoi dans un pays comme le Congo, vous pouvez avoir une panne de pneus chez vous, par exemple. Vous voyez une voiture complètement foutue avec une panne de pneus. Il s'arrête chez le Quado et on lui fixe un prix sur sa tête. S'il dit le Quado de sa préférence, il lui dit pour le même trou, il paye 300 francs. Vous avez une grosse dite, mais vous ne connaissez pas le Quado. La même panne a un prix qui est de loin supérieur à celui que le pauvre taximène a payé au Quado. Est-ce que ce prix, c'est le reflet de la demande et de l'offre, ou bien c'est le prix de la sympathie qui existe entre les individus?
C'est aléatoire.
Ça pose un problème de nature des prix, parce que l'économie elle-même pose le problème de sa nature aussi.
Voilà, juste une question avant d'ouvrir les standards. C'est vrai qu'on a suivi toute l'actualité. Il y a une commission tarifaire qui, au fait, siège en cas de dans l'état d'espèce. Hein, lorsque nous observons de telles situations, il est déjà dit pour tabler ou voir dans la mesure du possible comment revoir aussi les prix, soit de la course en taxi ou encore d'autres biens et produits de première nécessité. Alors, pour les cas d'espèce, si mes calculs sont bons, en tout cas, cette augmentation de près de 75 francs congolais ne fait même pas le 10% dont on cherche. Est-ce que nous pouvons craindre aussi les effets d'entraînement?
Si on veut être sincère avec l'économie, si on veut être vrai avec les mécanismes économiques, il faut accepter que le réajustement des prix à la pompe entraîne le réajustement des prix sur le marché des biens. Encore faut-il dire que ça n'a même pas attendu cette augmentation des prix à la pompe. Déjà, sur le marché des biens et des services, en particulier le marché des vivres frais et autres, il est en chaleur. On a enregistré déjà des augmentations sensibles des prix avant l'augmentation.
Avant même, oui, parce que déjà, on en a parlé ici, avec l'augmentation d'une bouteille, par exemple, de 30 centilitres de la bière,
oui,
qui en fait, s'obtenait autrefois à 1000 francs. Aujourd'hui, on est déjà à 1200.
Voilà, la boisson, la bière, comme vous l'avez dit, a augmenté de prix, ou les vivres frais que nous consommons toujours ont augmenté de prix. Donc, pratiquement, tous les biens de première nécessité, comme on les appelle, ont vu leur prix augmenter parce que les agents économiques doivent faire face à des problèmes qui n'ont la solution qu'à travers le marché, à travers le commerce qui semble effectuer. Alors, quand les opérateurs pétroliers réajustent leur prix à la pompe, en donnant des raisons liées à l'économie internationale, ils ont parfaitement raison. Donc, l'économie était déjà en train de subir, ce n'est pas la première fois. Encore faut-il que j'ajoute, pour terminer cette intervention, qu'il faut que je vous dise que, de tout le temps, les prix n'ont fait qu'augmenter. Parce que, souvenez-vous que, sur 10 ans, le prix de chinchard, comme on l'appelle, sont passés pratiquement de 22 dollars à 110 dollars aujourd'hui, sur 10 ans. Ça fait une augmentation pratiquement, exactement, presque de 10% chaque année, je dirais plus. Non, pas de plus de 10% chaque année. Mais prenez le prix d'une bouteille d'eau aux États-Unis d'Amérique, où on a un taux d'inflation qui varie entre 3 et 4%, c'est-à-dire de l'un supérieur à celui de la RD Congo, qui est de 1%. Mais là, une bouteille d'eau que vous avez trouvée il y a 10 ans à 1 dollar, la même bouteille d'eau coûte 1 dollar 10 ans après, 15 ans après, même 20 ans après. Vous ne voyez pas les prix changer sur le marché, comme ils changent chez nous tous les jours, mais eux vous disent qu'ils ont un taux d'inflation de 3 à 4%. Mais chez nous, où les prix changent, sont multipliés par 10,
nous avons un taux d'inflation à
1%. Et on a un taux d'inflation de 1%. Oui, où est la vérité? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le taux d'inflation?
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Nous allons ouvrir le standard avec vous, Adrien. Vous êtes à Kananga, Omar à Kinshasa, Daniel à Lubumbashi. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Bonjour à tous les inconditionnels de la PA.
Alors, maître Adrien, vous avez suivi notre invité, Michel Somoy, analyste économique, qui a brossé en fait un regard économique sur cette affaire d'augmentation de prix de carburant à la pompe. Alors, vous avez aussi un regard. Comment vous commentez cette actualité?
Merci pour la parole, JR. Je pense que je suis partiellement d'accord avec M. Michel Somouin, que je salue en passant, lorsque il accentue son argumentaire sur la fébrilité de l'économie congolaise. Là, c'est vraiment une réalité. Mais je pense que nous ne devrons pas être surpris aujourd'hui, hier, parce que la spéculation a commencé depuis très longtemps. Personnellement, je m'y attendais toujours à ces revirements de situation, parce que lorsque on a une économie qui est totalement extravertie, comment voulez-vous, lorsqu'il y a un petit mouvement dans des pompes, et directement, c'est nous qui sommes vraiment concernés en première position. Lorsqu'on a un pays qui ne produit presque rien, qui attend tout, qui attend tout de l'extérieur, c'est ça la conséquence. Lorsqu'on a un gouvernement qui est surpris toujours par des événements, un gouvernement qui est incapable d'anticiper des choses pour essayer de protéger les consommateurs. Lorsqu'on a un pays dans lequel les opérateurs économiques, donc les inspecteurs économiques, sont inexistants sur le marché, et donc les opérateurs économiques peuvent se donner le luxe de faire du n'importe quoi parce que les consommateurs ne sont pas sécurisés et ces gens-là ne sont pas non plus inquiétés. C'est pour cela que je pense, d'une manière générale, que nous sommes en train de subir tout simplement la conséquence de notre économie qui non seulement est faible, mais aussi qui est extravertie, comme je l'ai dit, tournée toujours à l'extérieur du pays. Et je pense, d'une manière générale, que je ne suis pas surpris par cet événement, parce que ça fait peser déjà dans le sentier depuis très longtemps.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous avez évoqué, comme notre invité, la fragilité de notre économie congolaise, malgré la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, vous attendez à ce revirement, vous l'avez dit, et vous décriez notre économie qui est essentiellement extravertie, et cela ne pouvait qu'avoir comme conséquence, en fait, la spéculation des prix avant et même pendant qu'il y ait cette révision à la hausse de prix de carburant à la pompe. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé des Kananga. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Merci beaucoup, Gilles, et bon début de semaine à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Merci beaucoup, Gilles. Je voudrais m'appeler en disant que l'économie est le poumon des nations. Voilà pourquoi Félix Houphouët-Boigny disait « Lorsque l'économie est en remue, la politique tousse et la population meurt. » Moi, à mon avis, premièrement, je voudrais apprécier cette décision. Il faudra qu'on s'entende. L'invité a parlé de M. Adam Smith, mais le même M. Adam Smith a dit qu'il faut savoir faire du réalisme économique, c'est-à-dire ne pas seulement responsabiliser l'État, qui n'est pas le seul acteur dans une économie libérale comme la nôtre. Sur le plan juridique, les problèmes ne se posent pas hier, car en droit économique, on ne prend pas de mesures concertées. Lorsqu'un État veut décider sur un prix, il faut qu'il concerte avec les opérateurs économiques. On ne peut pas demander aux gens de fixer un prix qui n'est pas normal ou relatif à leurs moyens économiques. Donc il y a eu des discussions qui ont été faites. Sur le plan des droits, les problèmes ne se posent pas. Et sur le plan économique, cette décision vraiment a des conséquences très néfastes, dans la mesure où elle freine même la circulation des biens. Imaginez un distributeur qui paye l'essence, et lorsqu'il voit qu'il est augmenté, il va aussi augmenter ses biens. Donc il y a un problème sérieux. Sur le plan social, n'en parlons pas, parce que c'est la population qui doit être déboursée, qui patouche déjà dans la misère, qui voit encore son prix d'achat augmenter. Quelles sont les causes, comme l'a dit Maître Brien? Il y a une mauvaise politique des hydrocarbures en RDC. Aujourd'hui, on voit la Cohydro qui est en baisse. On voit encore d'autres activités pétrolières qui sont seulement RDC, mais sur le plan pratique, on ne voit rien. Il y a aussi une chose numéro. Lorsqu'un opérateur économique augmente un prix, ce n'est pas sur un hasard. C'est par rapport aux conditions d'investissement en RDC. Ils sont victimes de cette entreprise, des tracasseries administratives, des taxes, des frais des douanes. Mais que voulez-vous qu'il fasse si ce n'est pas qu'augmenter les prix? Et puis, il y a un problème sérieux. La loi des 61 qui fixe ou qui réglemente les prix dit qu'il faut qu'il y ait un service qui puisse vérifier. La fois dernière, les ministres ont fait des descentes sur le terrain. On s'est rendu compte que les opérateurs économiques et en RDC, surtout les expatriés, ne respectent pas les marges prévues par la loi. Donc, les contrôles ne se font pas. Voilà pourquoi il y a un certain libéralisme qui se confond à une libéralisation à outrance. Puisqu'il ne faut pas se limiter à critiquer, moi, je pense que la première solution à faire, c'est relancer l'exploitation du pétrole en RDC. Nous avons connu la Cohydro et autres. aujourd'hui elles sont presque en baisse. Au lieu d'être toujours extraverti, dépendre de l'extérieur, nous avons le pétrole ici en RDC. Méfions des stratégies, exploitons-le, on n'aura pas ce même problème. Deuxièmement, il faudra que le condition d'investissement prévue par la loi de 2002 sur les investissements en RDC puisse être respectée. Si vous lisez la loi, il y a beaucoup de mesures incitatives qui poussent les gens à bien faire, mais sur le terrain, ces entreprises sont victimes de tracasseries et elles ne font qu'augmenter les prix. Troisièmement, il faut que lorsqu'on fixe le prix, opérateurs économiques et États congolais tiennent compte du prix d'achat des Congolais. 705, ça peut paraître peu pour ceux qui touchent facilement l'argent, mais pour le bon nombre de Congolais, ça augmente leur prix d'achat et ça les approfite davantage. Voilà mes trois solutions que je propose, mais je voudrais poser une seule question à M. Michel Soumet, si le permet.
Oui, allez-y.
Il a toujours critiqué l'économie congolaise, nous sommes d'accord. Mais nous voudrons passer de la théorie à la pratique, parce que ce qui distingue les pays anglo-saxons, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce que nous devons exactement faire pour que l'économie cesse d'être fébrile? Parce que nous avons des premiers ministres qui sont des économistes, des ministres.
Oui, je crois qu'Omar, cette question va aller, en fait, c'est mon interprétation, doit aller directement dans le sens qu'il faut faire pour que nous n'arrivons plus à connaître, hein, en fait, ce que nous appelons la versatilité au niveau de structure des prix dans notre pays. En tout cas, pour les cas, c'est de la thématique du jour, hein. Pour ne pas prendre, de prendre un peu, si nous en sommes dans la complexité, nous risquons de nous perdre. Prenons, qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui que demain, on puisse avoir cette situation à tout moment par rapport à, bon, il a dit peut-être en début, hein, mais il reviendra sur cet élément pour éclairer encore la lanterne des auditeurs et surtout ceux qui vont intervenir après pour ne pas nous répéter. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé des clients. Je vous en prie, Omar. Daniel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Daniel. Vous avez suivi Omar qui a évoqué là l'effet que produit cette décision de révision à la hausse du prix de carburant à la pompe, qui peut avoir aussi un effet d'attentisme auprès des opérateurs économiques pétroliers, et notamment ceux qui vont gêner leurs stocks et aussi spéculer par rapport au prix. Adrien a évoqué également, comme notre invité, la fragilité de l'économie et qui a décrié aussi l'économie extraverti. Daniel, vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Je voulais commencer mon intervention par une question à notre invité Michel Sommet. On parle toujours de la stabilité macroéconomique dans notre pays. Mais à chaque fois quand il y a une petite secousse, on observe un déséquilibre économique. Là, on est en train de parler du carburant. Et je vous informe qu'ici en Lubumbashi, depuis hier, nous avons un sérieux problème de transport en commun. Qui en fait au contrôle technique, et là, n'est pas le sujet de tout. Mais je pense qu'avec la hausse en perspective du carburant, ça peut encore empirer la situation. Alors, le problème, c'est que nous avons une économie extravertie. Tout vient de l'extérieur. Et que quand il y a une petite écoute à l'extérieur, une augmentation, nous subissons. Et quand nous voyons des prix, qui subit cela, c'est la pauvre population, c'est la basse classe. Et ici, à Lubumbashi, je prends le cas de la farine, juste à côté de nous, en Zambie. À chaque fois, dès qu'il y a une fermeture de la frontière, c'est le prix qui monte après. Et quel est ce paradoxe quand on nous parle de la stabilité macroéconomique et quand il y a une petite secousse, on observe un déséquilibre économique. C'était ça ma préoccupation. Et comme contribution à cette émission...
Voilà, pour élucider encore davantage la question, quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour qu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique? C'est vrai, macro, ça paraît un peu grand. Il y a aussi les cadres microéconomiques. Alors, je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, Daniel.
Et d'avoir terminé,
oui, rapidement, parce qu'il y a Joseph qui attend et Théophile. Allez-y. Allez-y, Daniel.
Oui, je voulais juste proposer à notre gouvernement de se lancer dans la production du pétrole, parce que le pétrole constitue une richesse vraiment très, très avantageuse. Nous le voyons avec l'Angola qui est à notre côté, qui se développe grâce au pétrole. Alors, nous pouvons aussi utiliser ce pouvoir pour les développements de notre pays.
Merci d'avoir donné cette piste de solution, Daniel. On va prendre Joseph et nous restons toujours à Lubumbashi. Joseph, bonjour.
Bonjour, M. Gir.
Vous avez la parole, Joseph.
En fait, j'ai entendu les intervenants qui m'ont précédé et ils ont rencontré presque toutes mes préoccupations. Mais je voulais encore féliciter M. Michel Sommet et je suis ses interventions je l'encourage. Je voulais juste lui demander pour la thématique d'aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas intervenir même dans les domaines qui nous concernent.
Joseph, je crois que c'est ça la philosophie de cette émission. On n'intervient que quand on a quelques notions ou encore quelques éléments par rapport à la thématique du jour. Donc on n'intervient pas par plaisir. Hein. Question de laisser quand même le temps à ceux qui ont la matière de réfléchir, d'analyser, pour permettre à ce que les décideurs puissent avoir quand même une idée sur... Voilà, Joseph, je crois qu'on va vous retirer la parole parce que vous n'avez pas la matière, s'il vous plaît. On va passer à Théophile. Théophile, vous êtes à Canada. Bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capital Africa.
Voilà, alors je l'ai dit tantôt que certains observateurs pensent que cette affaire, au fait, placera le gouvernement face à un défi des effets d'entraînement, à savoir la spéculation et haute augmentation des prix des produits de première nécessité. Alors quel regard portez-vous sur cette affaire?
Et moi, personnellement, lorsque j'entends le terme augmentation de biens de consommation, je me rappelle d'une histoire qui s'est déroulée en Afrique. Lors de l'augmentation des prix de pain en Égypte, les vincements amènent la terre, le président égyptien. Donc, la conséquence est sociale et c'est très dangereuse à ce où l'économie est encore en ballottage. Moi, je pense que le problème est purement stratégique. À mon point de vue, je trouve qu'il y a une lutte dans ce monde pour l'équilibre de l'économie occidentale. Et cette lutte entraîne l'économie des pays sous-développés dans une difficulté telle que on nous interdit de produire suffisamment notre pétrole sous prétexte de violation de l'environnement.
Le patrimoine. Le patrimoine mondial.
Ouais.
Oui, avec les blocs 5.
Justement, lorsqu'on nous met en difficulté pour notre propre production, on nous entraîne dans une augmentation des biens de consommation qui sont sur le marché en vue de créer toujours des difficultés. Nous venons de sortir d'une guerre qui n'a pas sorti. Et maintenant, si nous pouvons encore entrer dans une guerre économique, telle que l'augmentation des prix de biens de consommation, ça sera encore dramatique. Moi, je pense que le gouvernement pourra prendre des dispositions en vue de permettre aux investisseurs de produire, d'investir dans le domaine pétrolier, en vue de permettre à notre pays d'être dépendant de sa propre production plutôt que de s'appuyer sur la production du pétrole de pays étrangers, de l'importation. Donc, en ce moment, l'augmentation du prix du pétrole nous entraîne dans une difficulté telle que le transport sera difficile et la population, son économie est précaire. Je pense que le gouvernement pourra prendre des dispositions. On ne peut pas toujours accuser le gouvernement pour des problèmes qui sont conjoncturels. Voilà mon point de vue.
Voilà, je crois que là, vous rejoignez même la question de bon nombre d'observateurs qui, en fait, aujourd'hui, se posent la question sur la relance des activités des contrôles, de la Congolaise des hydrocarbures, parce que qui fonctionne, qui n'est là que l'ombre d'elle-même. Merci beaucoup d'avoir appelé Joseph de Lumbashi et vous avez évoqué l'équilibre de l'économie internationale à laquelle fait face l'économie congolaise, parce que là, finalement, si on fait pas attention, donc on risquerait d'avoir des problèmes sérieux. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Lumbashi. Théophile, vous êtes à Kananga. Bonjour. Voilà, Théophile qui venait de passer. Voilà, on prend plutôt Richard qui est à Kinshasa. Richard, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à monsieur Somoué, que j'appelle analyste économique humanitaire, parce qu'il éclaire fortement et clairement les Congolais, à tel point qu'il nous met dans la bouche des paroles pour poser des questions qui peuvent aider la communauté. J'ai suivi dans son introduction, il parlait du refus de la
dédollarisation
de l'économie nationale par même les officiels. J'ai fait allusion au livre de M. le ministre de...
Bahati Lukwebo.
Qui fut acheté par ses pairs en dollars qui sortaient de leur poche. Est-ce que si nous faisons comme le Zimbabwe, En prenant comme monnaie nationale le dollar, nous aurons posé un acte de bêtise ou quoi? Deuxièmement, depuis que M. Léon Lobic était le Premier ministre,
et son ministre, Managamapolo Ditoka Polo, avait placé la machine pour enlever le sel de notre pétrole. Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Parce que nous avons toujours 23, 230 000 ou barils par an. Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? C'est ça le problème. On est en train de parler de la saucisse. Que fait la saucisse pour amortir le secousse extérieur en matière d'augmentation de prix de cette denrée énergétique dans notre pays? Qu'est-ce que la saucisse fait? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé et vous demander qu'on puisse emboîter le pas à d'autres pays qui ont officialisé donc le dollar comme monnaie nationale. Et ça pourrait peut-être être une piste de solution au lieu d'avoir une banque qui produit une monnaie nationale. Alors, mais en réalité, le résultat sur le terrain n'est pas celui escompté. Donc, voilà, difficile même à se départir donc de cette monnaie que nous consommons. Merci beaucoup, Dr. Richard. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Au Capidan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidan New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Beaucoup de préoccupations par rapport aux auditeurs. Monsieur Michel Somoué, vous avez suivi les uns les autres. Certains parlent de la politique hydrocarbure. Les autres vont encore plus loin pour parler de l'équilibre de l'économie internationale qui influe sur l'économie de la RDC. Et puis, bon, il y a Richard qui a demandé officiellement qu'on puisse prendre le dollar comme monnaie nationale. Ça pourrait être une des pistes. Alors, comment vous réagissez par rapport aux réactions des uns et des autres?
D'abord, je remercie tous ceux qui ont fait des interventions parce qu'elles sont toutes très pertinentes à mon humble avis. Et je ne voudrais pas revenir sur les points qui nous mettent d'accord avec les uns des autres, notamment le problème de l'extraversion pathologique de notre pays, qui en fait une économie excessivement vulnérable, notamment le problème de la volatilité des prix, malgré le fameux cadre macroéconomique. Mais je voudrais plutôt peut-être m'appesantir sur deux préoccupations. Celle qui concerne la solution que la plupart ont proposée, la production du pétrole. Ça veut dire que ce n'est pas, si je comprends bien, essentiellement la production et le raffinage du pétrole. Mais je voudrais que les uns les autres se rappellent aussi que nous sommes dans la production, dans l'activité de production pétrolière depuis les années 60. Et que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais dépassé le plafond de 25 000 barils par jour. Il faudrait que, pour que nous comprenions ce que ça veut dire, il faut que nous nous rappelions que l'Angola, qui a été indépendant 15 ans après nous, c'était 1975, et qui a perdu 25 années supplémentaires dans une guerre inutile, s'est mis dans la production pétrolière il y a à peu près une décennie. Et déjà, l'Angola est à 1 million de barils par jour en exploitant la même nappe pétrolière que nous, le Congo. Je dirais même plus, en allant jusqu'à exploiter le pétrole congolais. Ça, c'est connu, c'est officiel.
Tout à fait.
Alors, il y a un problème. Pourquoi nous, on est plafonné à 25 000 barils, là où l'Angola qui entre aujourd'hui dans le marché passe à 1 million rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser cette question. C'est-à-dire que pour ma part, je pense qu'il y a aussi un problème de la nature et du statut de notre État. Parce que quand vous parlez du gouvernement, il faudrait que nous puissions nous poser bien une question essentielle. On parle souvent du civisme fiscal quand on parle d'entreprises qu'on condamne pour leur comportement démoniaque par-ci par-là. Mais pourquoi on ne parlerait pas du civisme fiscal pour l'État lui-même? Est-ce que nous avons un État citoyen? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Ça s'appelle le débat. Pourquoi notre État se contente-t-il des statistiques que tout le monde considère comme anormales? Le Congo-Brazzaville est en face de nous ici, un tout petit pays dont la population n'est même pas le quart de la ville de Kinshasa, est aujourd'hui à 400 000 barils par jour. Nous, on est encore à 25 000 barils par jour.
La même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le problème de l'offre et la demande.
ce n'est pas un problème de l'offre et de la demande, parce que à l'intérieur de ce pays, personne n'achète le pétrole congolais, tout comme en Angola, ils ne sont pas envoyés le pétrole, donc on va dire, non plus, tous nous produisons le pétrole pour un marché extérieur. C'est-à-dire aussi, il y a un problème de l'extraversion, comme chez nous. Mais pourquoi chez eux, ils sont là, si haut, et nous, on est toujours si bas, si embryonnaire. C'est là que je dis, il y a un sérieux problème d'État sur lequel le gouvernement doit pouvoir être capable de faire attention et de se remettre en cause. C'est important. Ne pas le faire se sombrer dans l'hypocrisie et envoyer aux gens des statistiques fumeuses juste pour se complaire et demeurer inutilement.
Mais le discours a évoqué, quels sont les éléments qui ont entre ligne des comptes pour qu'on parle de la stabilité macroéconomique?
J'en viens. C'est le deuxième problème. On a parlé de la vulnérabilité du cadre macroéconomique, que l'on dit pourtant être stable. Mais vous savez, l'économie, il a ses origines dans des sciences dures, notamment la chimie. Quand on parle du système économique, on se réfère à la chimie, parce que le corps est un composé des éléments chimiques. Et les différents éléments sont caractérisés par ce qu'on appelle des liaisons chimiques. C'est ça qui fait ce qu'on appelle en économie des relations d'interdépendance. La corrélation.
C'est pas si je vise les agrégats, le riquet entre eux.
Non, mais là, les liens entre les agrégats, les interrelations, les interférences. Mais là, quand vous êtes en chimie, on vous dit qu'il y a trois types de liaisons. Je ne veux pas faire trop de théorie, mais il y a la liaison, par exemple, de covalence. Pour m'arrêter à la liaison de covalence. C'est-à-dire qu'un corps et un autre se mettent ensemble à travers les éléments qui sont situés à leur périphérie. En économie, cette covalence existe. Mais c'est la nature de cette liaison de covalence qui détermine si l'état de la matière. On a le corps solide, le corps liquide, le corps gazeux. Si les liens, les forces de liaison qui vous associent sont fortes, votre corps est solide. Si elles sont relativement faibles, votre corps est liquide. Mais si elles sont nulles, votre corps est un gaz. Alors quand vous regardez l'économie congolaise, et rapporté à ce tableau chimique, on doit se poser la question, quelles sont les relations qui lient le taux d'intérêt, par exemple, au taux de croissance de notre économie? Permettez-moi de donner un exemple, GR, pour éclairer l'opinion. Lorsque le 20 août 1982, le ministre mexicain des Finances annonce devant plus de 100 banquiers américains que son pays est incapable de rembourser la dette qu'il lui avait accordée, la réaction, c'était laquelle? Je dis, le ministre des Finances, à New York, la réaction, c'est que la Réserve fédérale a baissé le taux d'intérêt. L'annonce du ministre des Finances était plus grave que la menace d'une guerre nucléaire pour les banquiers internationaux. Mais on se serait attendu à ce que le marché des actions et des obligations sombre au plus bas. Mais curieusement, les marchés se sont portés très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la baisse des taux d'intérêt. On se posait la question de savoir quelle est la relation entre le ministre des Finances et les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Mais c'est parce que le taux d'intérêt, quand il baisse, il permet aux banques d'emprunter davantage de l'argent auprès des banques.
Et
reprêter au Mexique qui a dit, si vous ne me prêtez pas davantage d'argent, déclarez-moi en faillite et faites ce que vous voulez. Et pour que les banques soient à mesure de reprêter de l'argent au Mexique et d'être sauvées de cette catastrophe, il a fallu que la Réserve fédérale baisse le taux d'intérêt. Voilà le cas typique d'une liaison solide. Dès qu'il y a baisse du taux d'intérêt à la Banque centrale américaine, automatiquement, la croissance renaît, les banques empruntent facilement de l'argent et en reprêtent aux autres, ça améliore la situation des finances publiques, ça améliore la situation de l'économie réelle, ça améliore la situation monétaire, la situation des relations internationales. On parlait de la dette extérieure.
Et maintenant, chez nous, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Mais chez nous, ces liaisons-là, elles n'existent pas, elles sont nulles. L'économie congolaise fonctionne comme un gaz, et même un gaz parfait. Vous savez, le gaz, quand il est parfait, c'est l'inertie maximale. Et même quand, parce que c'est le gaz, pourquoi? Parce que quand il y a une variation...
Donc encore, vos propos, c'est impossible que nous arrivions à une solution durable.
Nous devons, pour arriver à une solution durable, il faut qu'on réfléchisse sur ce que je viens de dire tout à l'heure, aussi bien la nature de notre État que la nature de notre économie. Il nous faudrait fonder et asseoir dans ce pays une économie nationale.
Malgré toutes les conférences organisées sur le plan économique ici, ces derniers temps, on a vu les pays organiser des grandes conférences internationales sur l'économie, où on a parlé des coulages, on a parlé de tant d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, qui constituent quand même une barrière ou encore un obstacle pour l'avancement de notre économie.
Évidemment, Théo a parlé tout à l'heure de problèmes stratégiques. en disant que ce sont les autres qui nous empêchent de produire et d'avancer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut repenser la notion de notre indépendance et de notre souveraineté. Qui définit notre politique monétaire? Qui définit notre politique budgétaire? Pour arriver finalement à la politique pétrolière, qui définit ça? Lorsque vous allez à la DGI, vous allez au ministère des Finances, vous allez à la primature, vous trouvez un expert international qui est au chevet de toutes ces autorités-là. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il est là pour contempler ou il est là pour dicter ses lois internationales? Lorsqu'on vote un budget dans notre pays et qu'il faut attendre le futur du Fonds monétaire international pour une budget en exécution, est-ce qu'on est souverain dans ce pays? Et le budget que l'on vote et les politiques qu'on adopte sont-elles faites pour des raisons intérieures? Sont-elles faites en fonction des réalités socio-économiques de notre pays? Sont-elles faites en réponse aux besoins, aux aspirations de notre population? Quand on dit le taux d'intérêt, le taux d'inflation est au plus bas, est-ce pour le bien-être des Congolais ou est-ce pour le plaisir du Fonds monétaire international? C'est une question posée parce que tout à l'heure, il y a un intervenant, je crois que c'est Richard qui a parlé de la question du pouvoir d'achat. On parle du pouvoir d'achat de la population. On a le taux d'inflation élevé à 1%, tant mieux. Mais quel est le pouvoir d'achat du citoyen congolais? Parce qu'avec le taux de croissance le plus élevé dont on nous parle dans ce pays...
Il y a plusieurs réunions de la Troïka, on ne va pas les sentir aujourd'hui, c'est plus tard.
Nous savons officiellement qu'en termes de PIB, en termes réels, parce que la croissance économique c'est quoi? C'est l'augmentation en termes réels du revenu par tête d'habitant. Ce n'est pas l'augmentation nominale. Et nous savons que par tête d'habitant, aujourd'hui, le Congolais a un revenu annuel de $110 en termes réels, la statistique est officielle qui vient du rapport annuel de la Banque Centrale, tableau 1.7. Dans le rapport annuel de la Banque Centrale, vérifiez l'information que je donne. Et le revenu par tête d'habitant aujourd'hui en 2013, parce qu'on a en 2014, bien sûr, le rapport de 2013, on n'est même pas encore sorti, le revenu par tête d'habitant renseigne que aujourd'hui le revenu par tête est de $110. Ça veut dire, ça veut dire 0,35 par jour. Voilà le revenu du citoyen congolais. C'est un problème pour pouvoir d'achat. À ce monsieur, quand on baisse le taux, quand on dit le taux d'inflation de 1%, ça ne veut dire absolument rien parce qu'on n'aura aucune conséquence sur lui. Voilà. C'est une question essentielle qu'il faudrait
qu'on a. Vous allez revenir sur d'autres préoccupations. Il est temps de repasser à nouveau de l'autre côté du standard. Il y a Guy qui est à Kinshasa, Martin Alumbashi, Arsène Akikwite. Guy, bonjour.
Hier et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez la parole rapidement.
Bonjour aussi à notre invité, M. Somme. Hein.
Voilà, vous avez la parole, Guy.
Je confirme qu'il y aura des effets d'entraînement quand le carburant a monté les prix. Parce que le carburant, c'est le transport. Et le transport, tous les commerçants savent qu'en matière de prix des régions, avant de fixer les prix des ventes, il doit tenir compte aussi des transports.
Oui, mais pour votre information, il y a eu déjà des effets, même bien avant. Et là, notre invité l'a souligné tout à l'heure. Nous avons vu que certains produits de grande consommation ou de première nécessité sont revus à la hausse, leur prix. Donc, je crois que c'est bien avant. On peut dire que c'était un signe avant-coureur. Et maintenant qu'il y a la révision à la hausse de prix à la pompe, carburant à la pompe, il y aura certainement encore d'autres effets qui vont s'en suivre, bien entendu avec la spéculation.
Oui, donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, la solution, ce sont d'être dépendants. Nous avons l'indépendance politique, mais en tout cas l'indépendance économique, nous n'en avons pas, ne nous voulons pas la face. Nous devons développer des secteurs comme l'agriculture, et puis bien gérer les entreprises. Vous savez que les entreprises comme la Sinel, la Régie des Eaux, tout ça, il y a même des recettes de toutes ces entreprises-là qui ne vont pas dans les trésors publics, ça va dans les poches des gens, c'est pas à l'aide des gouvernements, tout ça. Et en tout cas, la solution, c'est de développer d'autres secteurs pour que nous ayons beaucoup de recettes qui vont constituer notre budget. Alors moi, j'ai la question qui me préoccupe, parce que moi, je suis fonctionnaire de l'État. La question, est-ce que le gouvernement va-t-il indexer le salaire du fonctionnaire à ces changements-là? Parce que avec le changement des carburants, c'est un coup d'État à tous les fonctionnaires de la République. D'abord, ici, il y a beaucoup de chômeurs, et puis dans ces pays, lesquels des personnes qui travaillent sont les fonctionnaires, et avant même que l'on paye les fonctionnaires, il y a tous ces changements. C'est tout un coup d'État. Finalement, quand on va nous payer, on ne sentira même pas qu'on a payé. Il faut dire que nous sommes payés à la banque. Combien? quel montant, 70 000, maximum peut-être 100 000 pour les fonctionnaires. Et ça, c'est un coup d'état parce que cet argent qu'on va nous payer ne servira à rien. En plus, nous avons attendu le budget 2014, jusqu'à présent, qui n'est pas appliqué, qui sera appliqué seulement.
Voilà, Guy, ne faisons pas de l'amalgame, on risque vraiment de se perdre par rapport à la thématique. Nous retenons que, c'est vrai, ça aura des effets d'entraînement, et vous l'avez évoqué, et tout cela aussi, ça pourrait impacter sur même le pouvoir d'achat. Notre invité, elle a dit, avec les salaires que touche les fonctionnaires de l'État. Merci Guy. Martin, on va prendre Martin. Merci beaucoup Guy. Voilà, merci beaucoup Guy. On va prendre quand même Martin, hein, parce qu'il y a des auditeurs qui attendent aussi d'intervenir. Martin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole, Martin.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je voulais développer pour la thématique d'aujourd'hui comme ceci. Quand le prix du carburant monte à l'extérieur, c'est tout à fait normal que les opérateurs économiques qui œuvrent dans ce secteur, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, doivent aussi augmenter les prix parce que c'est du commerce qu'ils sont en train de faire. Ils ne doivent pas à tout moment rester perdant parce que dernièrement ici j'ai suivi quelques opérateurs économiques ici à Lubumbashi et souvent dans les domaines du pétrole. Ils étaient un peu défiguré par rapport au prix qui est affiché dans des stations de carburant. Certains opérateurs économiques arrivaient parfois à diminuer même le prix du carburant sans toutefois tenir compte de certains paramètres. Quand on dit que le carburant est monté par exemple de 75 francs, cela est minimisable et ça ne peut pas vraiment accepter les transports à l'intérieur quand bien même nous savons que les opérateurs économiques œuvrant dans les transports aussi, ce sont des commerçants qui cherchent à réaliser des bénéfices. Ces opérateurs économiques œuvrant dans les transports qui travaillent en collaboration avec le gouvernement, ils doivent quand même aussi comprendre quelque part s'il y a une hausse qui n'est pas très sensible, ils ne doivent pas automatiquement hausser le prix du transport parce que cela va affecter l'économie du pays. Et le gouvernement doit faire un effort pour gérer cette situation en collaboration avec le ministère de l'économie qui fixe les prix dans les pays. Quand même, chaque fois qu'il y a hausse des prix du carburant, les transporteurs essaient un peu d'exagérer les prix dans les transports. Et comme on a dit que le prix a augmenté de 75, moi je ne vois pas que cela peut avoir beaucoup d'impact sur les transports des biens et des services.
Oui, parce que déjà Martin dit la solution tarifaire. Voilà, Martin, pour votre...
la population pour que l'économie ne soit pas quand même
merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Martin. Et là, pour votre information, déjà, Matadi, la commission tarifaire provinciale a déjà statué sur même la révision à la hausse de prix d'une course en taxi. Et donc, c'est au fait des 50%, nous avons suivi, des 50 francs, nous avons suivi le maire de la ville, Matadi, qui est passé sur le zone des Radio Capi, confirmant cette information. Alors, parce qu'on parle de Matadi, Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole.
Oui, j'informe déjà de l'ami qui s'est dépassé. Et moi, hier soir, j'ai effectué une course, j'ai payé 500 francs.
500 francs au lieu des 450, donc c'est déjà revu à la hausse.
J'ai payé 500 francs.
Voilà.
Vous savez, monsieur Gilles, ça fait de la honte pour cette nation. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit. Et notre économie, c'est une économie extravertie. Nous ne dépendons que de l'extérieur. Et il faut savoir une chose, que ces choses ne datent pas d'aujourd'hui, ne commencent pas aujourd'hui. C'est depuis Mobutu. Les choses montent, vous vous réveillez le matin, et tout monte. Et nous savons bien que les carburants, c'est le thermomètre de l'économie. Moi, j'ai fait une inquiétude parce qu'au même moment, je vous dis que d'ici là, vous verrez, même sur les marchés, les denrées même des premières nécessités, ils ont aussi augmenté. Et là, est-ce que Nous aimons vraiment cette lettre. C'est une étude qui doit être faite avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que lorsque nous acceptons que les prix puissent monter, est-ce que nous accepterons aussi de faire monter l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État? Je ne sais pas. On ne peut pas accepter les choses parce que nous gérons les pertes. On ne doit pas. Ça fait longtemps. Le gouvernement a clamé que nous sommes dans une bonne ligne de la croissance économique que nous ne sentons même pas. Mais, typiquement comme ça, le prix du carburant vient aussi déranger les choses. Et maintenant, nous devons accepter ce qu'ils ont dit, que nous sommes dans une
même ligne.
Merci beaucoup,
Michel. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Michel, vous voulez proposer quelque chose?
Le gouvernement qui viendra sauver les Congo. Parce que n'oubliez pas qu'avant que ce dernier gouvernement puisse s'installer, on nous disait que c'était un gouvernement constitué de technocrates. C'est ça qu'ils vont faire. Nous avons eu des gouvernants et gouvernants. Nous pensons que.
Merci beaucoup, Michel, mais les réalités sur le terrain sont tout autres, peut-être. Chacun de nous n'a pas encore eu le temps de faire cette expérience ou cet exercice au sein d'un gouvernement. Bon, voilà, donc peut-être de l'extérieur, nous avons une vue de l'extérieur, un regard aussi de l'extérieur des spectateurs. Merci, Michel, d'avoir appelé. Michel Fomoué, réaction d'abord à Chio par rapport à toutes ces préoccupations.
Oui.
Et répondre aussi quelques préoccupations que nous avons laissées.
Exactement.
Dans la première série.
Oui. Il y a d'ailleurs, parmi les questions que nous avons laissées, il y a même un auditeur très intervenant tout à l'heure qui me disait d'arrêter avec trop de théorie pour passer un peu aux pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire une économie nationale. Quand je dis nationale, je ne dis pas de choses par hasard. L'économie, le malheur de notre économie, et c'est genre, je viens à la question de prix parce que nous en parlons justement, le malheur de notre économie est qu'elle est hybride. Nous ne savons pas exactement ce que nous sommes. Voilà que les prix augmentent et que de nombreux auditeurs interviennent pour demander le contrôle des prix, etc. L'État doit intervenir. Mais là, bien de l'autre côté, l'État se dit avoir fait l'option pour l'économie libérale, sans laquelle il y a une difficulté avec la Banque mondiale. C'est ce qu'on lui demande de faire exactement. Il faut libéraliser les marchés. C'est pour ça que les institutions de Bretton Woods nous ont poussé dans la voie de la privatisation de l'entreprise pour qu'il y ait le moins d'État possible. Pas d'État à la limite s'il le faut. Sinon, pour permettre de conserver des inégalités entre les riches et les pauvres. C'est la conception d'Adam Smith que j'évoquais tout à l'heure. Et à même Dieu qui me dit, qui pose la question pour dire, mais maintenant qu'il y a eu augmentation du prix à la pompe, est-ce que les salaires sont seulement aussi être indexés? Je ne suis pas le gouvernement pour répondre à cette question, mais il faut plutôt se poser une autre question. Est-ce que dans ce pays, le salaire existe comme une variable économique? Ou bien est-ce que c'est un forfait, un pourboire que les gens donnent à qui ils veulent, comme ils veulent, sans aucune référence avec l'existence et le fonctionnement du marché du travail, lequel n'existe même pas du tout? Est-ce que le salaire est un prix d'équilibre lui-même? C'est ça la question, quand nous parlons du prix, justement. Le salaire est un prix.
Pour l'État congolais, le salaire, c'est une charge fixe.
Mais
si on peut comprendre, c'est comme ça.
Oui,
mais c'est pas une charge variable.
Bien sûr que le salaire est une charge pour l'entreprise, quelle que soit. Le salaire fait partie du coût. Et même quand je parlais de l'inflation aux États-Unis d'Amérique, leur inflation, si vous regardez sur le marché, vous ne voyez pas ce qui a changé, mais ce qui change en réalité, ce sont les coûts des facteurs. Et notamment des facteurs travail. Donc, le coût, c'est le salaire qui mesure le coût du facteur travail. Mais chez nous, est-ce que le travail est considéré comme un facteur de production qu'il faut acheter? Ou bien est-ce que le travail est considéré comme une dotation naturelle, au même titre que la terre, l'air et l'eau que nous utilisons dans le fleuve Congo? C'est un problème sérieux. Donc, à partir du moment où on n'a pas organisé une économie avec des définitions claires sur les délimitations de fonctionnement des marchés, avec des stratégies, comme parlait tout à l'heure encore Théo, pour parler de la stratégie, et qu'on n'a pas pu définir ça, ça posera toujours un problème.
Mm-hmm.
C'est donc la question fondamentale par rapport à l'intervention de Martin, qui dit même il faudrait bien sûr qu'il va y avoir des réajustements, il faut payer à ce qu'il n'y ait pas d'excès de la part de l'État, etc. C'est bon, ça pose la question du rôle de l'État et de la nature de l'économie. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus pour dire des questions très, très préoccupantes. Michel, je formule avec beaucoup d'inquiétude et en faisant une proposition pour dire non, le problème, c'est qu'on prend des décisions sans avoir fait des études. Mais dans le cas d'espèces, dans le cas d'augmentation des prix pétroliers ici, il n'y avait aucune étude qui aurait été faite par le gouvernement parce que les opérateurs pétroliers ont décidé et ils ont appliqué. c'est parce qu'ils ont trop attendu de la part de l'État qui n'a pas réagi. Alors ils ont appliqué, c'est pas, je ne dirais pas que c'est une épreuve de force, mais je dirais que tout ça c'est le reflet aussi des relations qui existent, comme j'en parlais tout à l'heure, des liaisons qui existent entre les institutions, comme elles existent entre les variables économiques et les variables sociales. Lorsque un pays, lorsque les variables économiques ne fonctionnent pas suivant les principes qui les gèrent, universellement reconnus, alors les variables, parce que les variables ne sont rien, les variables économiques, c'est elles qui se transforment en valeurs sociales. Quand on dit que l'économie est une matrice de la société, c'est parce que finalement les variables économiques, c'est elles qui se transforment en valeurs sociales. Lorsque les variables économiques sont elles-mêmes tronquées, alors votre système social devient un système des antivaleurs. La corruption, l'arbitraire. Et même l'État lui-même est pris dans ce piège, parce qu'il est pris dans un tourment, dans un tourbillon impossible. À la limite, l'État va jouer quel jeu maintenant? Parce que l'État maintenant joue le jeu de la résistance au pouvoir, et il s'adresse à ceux qui lui permettent de rester au pouvoir. Ce ne sont pas les élections qui permettent forcément au gouvernement d'être au pouvoir, parce que aucun, le premier ministre n'a pas été voté comme premier ministre, n'a pas été élu comme premier ministre, aucun ministre n'a passé un concours. Il faut s'adresser à ceux qui vous mettent au pouvoir. C'est l'Occident, c'est l'extérieur qui vous permet de faire du sponsoring auprès des autorités politiques.
Michel Sommoy, je considère ça comme mot de la fin de cette émission et aussi la conclusion de cet échange citoyen que nous avons eu avec les auditeurs. Nous vous disons merci, chers auditeurs, vous tous qui avez participé à ces débats. Merci également à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Thierry Lamégi, qui aurait été assistée par Elvira Panzou. Cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Mugembo. On se retrouve demain.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, demain, nous allons parler de la publication hier lundi dans la soirée des résultats de l'examen d'État 2014, toutes sections confondues, pour la ville province de Kinshasa, selon les communiqués officiels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette publication se poursuivra pour toutes les autres provinces récentes avant la fin de la semaine. Signalons que cette publication globale intervient deux semaines après. Quel regard portez-vous sur cette innovation? Donc prenez déjà rendez-vous avec nous pour cette émission.